André Velter, un écrivain aujourd'hui, un poète, comme on dit, même si on le dit peu, qui écrit aujourd'hui, peut, je pense, difficilement ignorer les chants de Maldoror et l'Autréamont. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Au fond, je n'essaie ni d'analyser ni de critiquer. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'était une sorte de retour instinctif dans le monde de l'adolescence et dans une sorte de monde d'une énergie irrépressible. Et maintenant, je trouve que les échos des chants de Maldoror sont très proches des échos que je trouve dans les premiers textes de l'humanité. C'est-à-dire ces textes qui n'ont pas d'auteur, ces textes des premiers oracles, des premiers prophètes, des premiers devins. Et c'est-à-dire ces textes qui inventent tout, qui sont d'avant tout, qui sont en tout cas d'avant la littérature, qui sont comme le surgissement d'un individu ou de ce que l'on pouvait appeler des esprits. Réellement, l'Autréamont m'apparaît comme un individu hanté et habité. Et donc, d'une certaine façon, sa parole dépasse l'individu du casse. C'est pour ça que je trouve que l'idée des deux noms n'est pas mauvaise du tout. Bon, cette idée du conte qui ennoblit on ne sait quoi, moi j'y suis. Enfin, je comprends bien ce qu'il a voulu transmettre par là, certainement. Un petit peu comme un oracle n'est que le réceptacle d'une parole qui le dépasse, et qui donc invente hors norme. Ou mieux que hors norme, avant les normes. Toujours cette idée que l'Autréamont écrit avant d'avoir été normalisé par quoi que ce soit. C'est un cri originel. Je crois que l'esprit adolescent se tient au plus près des origines. Il pense d'instinct. Il ne pense pas avec la pensée. Il pense avec autre chose. Il pense avec les nerfs. Il pense avec le souffle direct. Il pense avec les éléments. C'est ce qui, je pourrais dire, me ressource telluriquement. Me remet au plus près de la naissance du monde et de la parole. Et de la parole de certains hommes.
Ça, c'est toute une définition de la poésie qui semble avoir couru à travers notre siècle depuis l'Autréamont, qui n'a pas épuisé toutes les pratiques poétiques, mais qui semble être particulièrement réveillé depuis l'Autréamont.
Disons que le deuxième pôle évident, c'est Artaud. Dans la suite de ce que je viens de dire, avec de très nettes différences, mais ce sont certainement les deux grandes voies qui ont été universelles, enfin disons, qui ont réussi à rassembler en elles tout ce que l'univers a de spontanément, d'une autre rationalité. J'allais dire irrationnel, et en fait je me suis rendu compte que ça n'était certainement pas ça. C'est un ordre des choses qui est quand même un ordre des choses, bien qu'il ait l'air d'être le désordre absolu ou le chaos absolu. Et surtout, proféré par un individu, avec tout son potentiel individuel, et avec tout le risque qu'un individu fait à se meurtrir et à se déchirer, à sortir ça de lui. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme une immense solitude douloureuse et en même temps jubilatoire chez l'Autréamont et chez Artaud. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les lis. Et c'est une solitude douloureuse et jubilatoire qui est tellement proche de celle que l'on ressent quand on a 14-15 ans, qu'on est seul au fond d'un lycée de province, et qu'on sent tellement ce qu'on voudrait qu'on devienne, et qu'on sent tellement ce qu'on ne veut pas devenir. Et l'Autréamont, je crois que c'est vraiment celui qui a réussi à dire cela. On se l'est tous dit intérieurement, mais lui, il a réussi à forger les mots pour le dire. Une liberté totale a réussi à s'incarner dans un langage à un certain moment. Et ça, c'est quelque chose certainement d'unique dans la littérature, enfin, dans la littérature et dans l'avant de la littérature.
Ça, c'est tout de même autre chose que l'automatisme au sens restreint des surréalistes, en tout cas des premiers temps du surréalisme.
Pour moi, ça n'est pas comparable. Il me semble que l'Autréamont, il disait quelque chose, c'est-à-dire que je ne connais pas le manuscrit des chants de Maldoror, mais Est-ce que vraiment on trouverait qu'une rature déparerait dans le manuscrit? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, qu'il est raturé réellement ou non, c'est un texte qui parfois avance par ratures successives. Donc c'est pas très grave de savoir si c'était matérialisé ou pas. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit comparable au phénomène de l'écriture automatique, parce que je me demande si chez Lautréamont, ça n'est pas une surconscience qui écrit, plutôt que de laisser de tenter. Est-ce que c'était vraiment, réellement, véritablement cela, que de tenter la parole de l'inconscient? J'en suis pas si sûr. L'inconscient, ça me paraît bien retors. Et puis Breton était un être hyper conscient lui aussi. Mais je vois plutôt Lautréamont du côté d'une... Sans doute y a-t-il une vitesse de pensée exceptionnelle, mais je crois surtout qu'il y a cette sorte d'outrecuidance absolue que peut avoir un jeune homme qui se dit qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de frein, et qu'il va dire ce qu'il a envie de dire jusqu'au bout. Et puis, il n'a de compte à rendre à personne. Et ça se sent d'une telle façon. Il peut tellement être lui-même et ce qu'il veut être. Parce que c'est ça qui est formidable dans cette époque de la vie, c'est que on sent très précisément ce que l'on ne veut pas être, mais l'on sent les potentialités sont considérables. C'est-à-dire que, c'est pour parodier Pessoa, on n'est rien, mais on est aussi tous les rêves du monde. Et on est aussi toutes les réalités du monde. Et ce qui est formidable dans les chants de Maldoror, c'est le nombre de seuils de réalité qui sont successivement franchis.
Vous avez dessiné, à partir de Maldoror et avec Maldoror, une sorte de triangle qui est poésie, adolescence, prophétie. Est-ce que ces trois termes, ces trois idées vous paraissent indissolublement liées, en tout cas dans ce que chacune peut avoir d'important?
Pour moi, oui. Je ne peux pas parler pour d'autres, mais là, je ne m'imagine pas que un poète puisse un jour ou l'autre se détacher de l'esprit adolescent tel que je le définissais tout à l'heure, c'est-à-dire comme cri des origines, donc en partie comme prophétie.
Comme résistance à toute prise en main, reprise en main.
Oui, oui, je peux pas vous le définir. C'est certainement, l'idée de résistance peut parfois avoir quelque chose d'un peu crispé. Là, je dirais que c'est une résistance flamboyante, une résistance jubilante en même temps. C'est-à-dire que ça n'est pas un retrait, c'est une projection, c'est une résistance conquérante.
Oui, il attaque carrément.
Oui, 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 c'est une résistance conquérante. L'esprit, l'espace de l'esprit est à conquérir, et tous les échos du monde doivent en être, je dirais, envenimés.
Et quel rapport est-ce qu'on peut aujourd'hui voir entre la poésie et la philosophie, non pas théoriquement, mais disons vous dans votre propre expérience d'écrivain et de lecteur?
Moi, j'ai une vision un peu particulière parce que j'essaye désespérément de faire en sorte que tous ces genres qui dans certaines civilisations ne sont pas distincts. C'est-à-dire dans les grandes civilisations orientales, voire moyenne-orientale, en Perse, en Inde, ou en Inde par exemple, la poésie, la philosophie et la métaphysique, c'est la même chose. Et on peut même ajouter pour certains auteurs persans les mathématiques, la physique, etc. C'est-à-dire que toutes ces différences qui sont apparues tardivement chez nous, toutes ces spécialisations n'ont pas cours, et en Inde, un poète qui n'est pas philosophe et métaphysicien n'est pas poète. Un métaphysicien qui n'est pas philosophe et poète n'est pas métaphysicien. Un philosophe qui n'est pas métaphysicien et poète n'est pas philosophe. Donc, de toute façon, il faut... C'est un même mouvement. Moi, j'ai toujours considéré qu'on s'était extraordinairement... On avait extraordinairement rétréci le champ dans les deux écritures, dans les deux orthographes du terme C-H-A-M-P et C-H-A-N-T. On avait considérablement rétréci le champ en spécialisant les gens et en les nommant poètes, philosophes ou métaphysiciens. Et d'ailleurs, c'est à mon sens pas un hasard si Maldoror, ce sont les chants de Maldoror. On n'avait pas souligné cet aspect. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Sans doute qu'aujourd'hui, ce qui me requiert le plus, en plus de tout ce que j'ai dit, dans Maldoror, c'est cet aspect de l'oralité qui est sans cesse présente. Et il suffit un jour de faire l'expérience de lire ou de faire lire les chants de Maldoror à haute voix pour voir à quel point on était en attente de ce chant triomphant et désespéré à la fois, et à quel point la poésie contemporaine a besoin de ce retour à l'oralité, et à quel point la nostalgie de l'oralité est forte en nous, en tout cas en moi.
C'est vraiment une parole.
C'est certainement la parole à son plus haut période, et c'est le verbe même dans toute sa puissance de création.
Le prophète, c'est celui qui est possédé par on ne sait pas quoi, hein, qui perd son identité au moment où il parle et où il écrit. Et vous soulignez le dédoublement d'identité de Ducasse devenant Lautréamont. Vous avez évoqué Pessoa. Est-ce qu'il y a là aussi une question de nature pour la poésie, peut-être de nouveau pour la poésie contemporaine, une question de nature dans cette question d'identité?
Oui, le problème de l'identité parmi les poètes contemporains, sans doute qu'on assiste ou on va assister à un renversement de perspective. C'est vrai que les chants désespérés sont les chants les plus beaux parce qu'on se gratte l'ego personnel. C'est peut-être en train de se dissoudre dans quelque chose d'autre. Pour moi, en tout cas, ça n'est pas la perspective principale du chant poétique. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire de trouver les résonances, bien sûr, au départ, en moi, mais surtout ce qui me mène hors de moi et qui entre en écho et en résonance avec, un peu présomptueux, avec tous les chants du monde. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des pensées orientales. Il est vrai que je trouve une chambre d'écho extraordinaire dans ces pays où l'attention au moi est beaucoup moins grande que chez nous, et où le chant et où la poésie a surtout pour fonction de dire ce qui tend à l'harmonie des hommes et aussi de tout le reste, c'est-à-dire de l'univers entier, du cosmos, de la nature, de toutes les créatures, et qui dit au fond aussi ce que l'homme est le seul à pouvoir dire, c'est-à-dire cette sorte d'incongruité qu'est le destin humain.
Et ça, chez Lautréamont, ça passe beaucoup par les métamorphoses, enfin cet espèce d'esprit ou de souffle cosmique.
Oui, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que il n'y a pas de. Je pense que Lautréamont, c'est une irruption qui le dépassait, parce que en était-il conscient, je n'en sais rien, mais c'est pas tout à fait un hasard s'il venait de Montevideo. Il avait donc traversé beaucoup d'espace, sans doute plusieurs langues, et il était lui-même une chambre d'écho beaucoup plus vaste que des poètes de son époque, étroitement français ou parisien. Et je ne sais pas si l'exil de Rimbaud à Arras, ça n'a pas été aussi une tentative d'aller vivre, d'ouvrir son espace d'une façon physique. Parce que il y a ça aussi dont on n'a pas assez parlé. Tout ça, ça n'est pas seulement une aventure mentale, c'est une aventure mentale exceptionnelle, mais c'est aussi une sorte d'explosion intérieur, je dirais presque de toutes les fibres et de toutes les molécules et de tous les atomes qui constituent cet individu. Et toutes ces fibres, tous ces atomes sont en résonance, me semble-t-il, avec l'ensemble du grand vent cosmique. Enfin là, je vais vraiment très loin, mais oui, c'est comme ça que je le ressens, ce frémissement universel qui, de temps en temps, chez un individu, arrive à se cristalliser et recréer un grand souffle, et recréer une grande parole, et recréer un grand verbe créateur.